Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème : qui dominera le monde ?
Un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Beltsazar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, au roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Au roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Que Dieu nous bénisse à travers sa parole. On va parler de Noël. Vous êtes d'accord? Oui. Les prophéties de la Bible et l'avenir de l'humanité. On pourrait peut-être dire les choses de cette manière. Jésus nous donne cet avertissement et vous vous en souviendrez. Il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors on va le vérifier. L'histoire du monde depuis Babel s'est caractérisée par la constante ambition, prétention, orgueil des hommes visant à la gloire et à la domination universelle. Dominer le monde entier. Et je voudrais vous donner tout de suite une réponse, peut-être aux questions qui surgissent dans votre esprit. Comme ça, ça va nous aider à aller plus loin. Si vous ouvrez dans votre Bible le chapitre 7 et le verset 13, je le lis simplement. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, elle ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Permettez-moi d'y voir le petit enfant qui est né dans la crèche de Bethléem. Amen. Daniel, le prophète, c'est un jeune homme juif, déporté à Babylone. Il est choisi pour servir dans le palais du grand roi Nebuchadnezzar à Babylone. Et comme il se distingue par une sagesse au-delà du commun, eh bien, on va l'introduire dans le conseil des sages, dans le conseil de ces grands du royaume. Et puis, une nuit, le grand roi de Babylone va avoir un songe. Celui-ci est tout à fait particulier parce que c'est un songe qui vient de Dieu. On a tous peut-être rêvé. On a peut-être aussi fait le contraire, avoir eu des cauchemars ou toutes sortes de choses qui nous sont venues dans notre sommeil. Mais là, il s'agit d'un songe divin. Alors, le roi se réveille et il semble avoir tout oublié. Mais il y a une chose qu'il n'a pas oublié, c'est qu'il a fait un songe. Alors il va faire une convocation solennelle de tous les grands de son royaume, et particulièrement ses sages, son conseil, ses magiciens, parce que c'est un monde occulte, Babylone, et ses astrologues, et ils vont venir auprès du roi. Alors on va les introduire. Et nous voyons qu'il va y avoir un grand sommet. Il ne se trouve pas à Copenhague, mais il se trouve à Babylone ce jour-là. Et nous voyons que tout est imprégné dans cet empire de sciences occultes, de magie, d'astrologie. Mais je vous ai dit que le songe, il vient de Dieu. Alors il va voir la différence. Les magiciens et les astrologues babyloniens sont en difficulté. Et le roi exige, il est roi, il va exiger non seulement l'interprétation, mais le rappel du songe. Et là, c'est difficile. Alors, il va y avoir des pressions qui vont être mises en évidence, des pressions jusqu'à des pressions de mort. Dites-moi ce que j'ai songé et donnez-moi l'explication. Et tout le monde à la bouche fermée, pas moyen finalement de dire. Mais le roi est un homme intelligent quelque part parce que en réclamant une telle chose, le songe et son explication, eh bien, je crois qu'il voulait se mettre à l'abri de toute mystification, se mettre finalement là, eh bien, en dehors de tout ce qui pourrait être inventé d'une manière ou d'une autre, parce qu'il doute un petit peu de l'intelligence surnaturelle que s'attribuaient ces devins. Alors il va leur dire maintenant, donnez-moi le songe et donnez-moi l'explication. Et il les connaissait, hein. Parce que des histoires, hein, imaginez. Des histoires qui passent à travers la tête, c'est pas d'hier, c'est encore aujourd'hui. Des gens qui fantasment sur toutes sortes de choses, surtout quand il s'agit de choses très très importantes. Et là, nous allons le voir dans la découverte, c'est une vision, C'est une projection dans l'avenir du monde. Et le roi est très très imprégné, il est même chagriné, il en est complètement sans dessus dessous. Alors il veut véritablement une explication qui soit conforme en quelque sorte. Et vous savez, je l'ai dit il y a un instant, en cas d'échec, il va y avoir une sentence de mort sur tout ce conseil, hein, magicien, astrologue du royaume. Alors les heures sont cruciales pour tous. Mais crucial aussi pour Daniel, parce qu'il fait partie aussi de ce groupe-là. Lui, il a une autre conception des révélations. Mais pour l'instant, il ne sait rien. Pour l'instant, il ne peut rien dire. Mais si personne ne dit rien, ils vont mourir. Alors peut-être qu'il y a eu des tentatives de fait pour les uns et les autres de raconter des histoires. Mais Daniel va faire autre chose. Nous voyons qu'à un moment donné, après seulement des heures et des jours, le roi va s'irriter violemment. Et c'est la consternation dans tout l'Empire. Tout le monde le sait, hein, qu'il y a eu quelque chose. Mais aucun n'est dans la capacité d'expliquer, finalement, le songe de Nebuchadnezzar. Alors, Daniel, qui est un homme fidèle à son Dieu, un homme qui est un croyant profond, un homme de foi, va implorer la miséricorde du Dieu d'Israël. Il va se mettre à l'écart et il va dire, « Seigneur, c'est pas pour sa vie, parce qu'il sait qu'il va mourir lui aussi. » Mais il se dit, Seigneur, il y a certainement quelque chose. Et il est là devant Dieu à prier, à supplier, à demander que Dieu fasse quelque chose. Alors il va prier Dieu. Et dans nos versets, on peut lire les versets 16. Je ne les ai pas lus tout à l'heure parce que ça faisait quand même assez long, mais on va les reprendre au fur et à mesure. Voilà, et il nous est dit au verset 16, « Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. » Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Et la chose va être faite. Ils vont se réunir et ils vont demander à Dieu sa grâce. Au verset 17, il nous est dit, ça tombe comme une parole qui descend du ciel, « Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. » Vous savez, c'est réconfortant quand on prie et que l'exaucement arrive. Ça, c'est un encouragement à la prière. Il y a des choses qui nous perturbent, il y a des choses qui pèsent sur notre cœur, il y a des choses que Dieu veut nous révéler et d'autres qu'il ne va pas nous révéler. Mais là, il y avait toute une extrême pression dans cette situation et c'est le soulagement. Je dis que Dieu est fidèle dans la détresse des hommes. Et dans la détresse de ses enfants. Et pourtant, l'ambiance était quand même toute imprégnée d'occultisme, de magie et toutes sortes de choses. Il l'a vécu dans cette ambiance, Daniel. Imaginez-vous ce que ça pouvait être. Mais lui, il avait gardé la foi dans son Dieu. Alors la prière de remerciement de Daniel est remarquable. Et elle trace tout le caractère de Dieu. Et il dira ceci dans sa prière quand il va avoir l'exaucement. À lui appartient, à Dieu, à notre Dieu, au Dieu d'Israël, à lui appartient la force et la sagesse. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît tout ce qui est dans les ténèbres. Voilà ce que dira Daniel. Une belle prière, assurément. Alors, puisqu'il a la réponse, Daniel va oser l'entretien avec le roi de Babylone. Il va comparaître devant Nebuchadnezzar. D'abord, il témoigne que la révélation n'appartient pas aux humains, aux vivants, ce que nous sommes les uns et les autres, mais que dans les cieux, il y a un Dieu qui révèle les secrets. Ouais. Dieu fait connaître sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Et il fait connaître sa pensée à ses enfants, quand le temps est arrivé, pas la peine de bousculer et d'ouvrir les portes quand elles sont fermées, mais quand Dieu veut nous faire connaître quelque chose, il nous le fait connaître. Là, il avait une mission à remplir, c'est-à-dire aller maintenant auprès du roi, ce qui n'était pas une petite affaire d'être introduit, auprès de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez d'Assuérus, le roi des Mèdes et des Perses, on devait voir le sceptre tendu, autrement c'était la peine de mort. On n'y arriverait pas. Mais là, je crois que s'il y a quelqu'un qui était attendu au palais, c'était celui qui allait donner la réponse. Et en l'occurrence, Dieu avait choisi Daniel pour ce faire. Le songe du roi a pour objet l'avenir proche et l'avenir lointain, autant que l'on peut parler des siècles et des siècles. Ça, il est dit, ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors depuis Daniel, je peux vous dire qu'il y en a eu des temps, il y en a eu des mondes, il y en a eu des générations, il y en a eu des siècles, il y en a eu des empires, il y en a eu des royaumes, il y en a eu des guerres. Et je crois que quand on entend l'apôtre Paul nous dire, à nous qui sommes dans la fin des siècles, alors ça nous intéresse. Ça nous intéresse particulièrement ce qui arrivera dans la suite des temps, c'est-à-dire les bouleversements des puissances, des dominations, des empires terrestres, à commencer par l'empire de Babylone, par ce grand empire que représentait la Babylonie. Alors je voudrais certainement faire brièvement un résumé de l'histoire jusqu'à la fin des temps. Vous n'êtes pas pressé, hein ? On va rester quelques siècles. Non, ça va être plus court que ça. On va lire le verset 31 et 33. On va relire ça. L'explication. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds, en partie de fer et en partie d'argile. Vision d'une gigantesque statue. On en a dans notre monde des statues. Hein. Ouais. Je ne parle pas sur le plan juridique. Mais il y en a une qui a été construite, là, il me semble, à Dakar. Tiens, j'ai vu ça dernièrement. Énorme ! Elle dépasse de quelques mètres la Statue de la Liberté à New York. Ouais. Bah, je m'informe quand même. Et puis, dans certaines civilisations, même encore contemporaines, les grands hommes, vous savez, ils se font faire des statues. Elles ont été déboulonnées ces dernières dizaines d'années-là. Hein. Mais l'homme aime faire des statues. Et se représenter, naturellement, hein, parce que bon, c'est pour les autres, hein, c'est surtout eux. Hein. Donc, une statue colossale. Il nous est parlé qu'elle était d'une splendeur extraordinaire par l'éclat des métaux qui la composaient. On l'a vu, hein, on les a énumérés tout à l'heure. Et il y avait dans le regard et dans l'aspect, dans le port de cette représentation, dans cette statue, quelque chose de terrible. Ah ouais, le monde... Les sociétés du monde sont terribles. La représentation est terrible, effrayante parfois. Vous avez remarqué quelquefois dans certaines statues, le visage est très très marqué, très très fort, comme quelque chose d'une grande sévérité. Alors ça devait être ça, certainement. Et puis il y a cet étrange assemblage, parce que quand on fait ce genre d'œuvre d'art, eh ben, on essaie de prendre certainement les mêmes matériaux. Mais là, regardez, c'est curieux. Hein. Une statue d'une composite de matériaux qui donnait certainement eh bien, un aspect particulier, mais c'était gigantesque, et une impression de puissance et de domination. La tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, un ventre, un abdomen si vous voulez, et des cuisses, des reins. Ses jambes sont de fer, et puis il y a ses pieds en partie d'argile et en partie de fer. Peut-être que si on avait réfléchi à la chose, on aurait peut-être fait le contraire, non ? Mais c'est comme ça. Et vous connaissez bien l'histoire, mais je voudrais vous la rappeler quand même. Une réalisation si solide, faite, et je crois qu'on aurait certainement juré, excusez-moi l'expression, que rien ne pouvait détruire cette chose. Elle était faite pour durer à toujours, si l'on oublie de considérer la suite. Vous savez, les hommes font des prouesses hein, dans l'architecture, dans les arts, dans le gigantisme, dans la démesure. Bientôt, là, en 2010, il va y avoir l'inauguration de la plus haute tour du monde à Dubaï. Enfin, et là, ils sont mal partis parce que, bon, un problème d'argent, mais... Hein, la plus haute tour du monde, elle fait 800 et quelques mètres. Hein. Imaginez-vous, hein, quelque chose. Hein. Alors... C'est pour dire hein, que le monde est capable de réaliser des choses. Mais l'histoire de la tour de Babel, ça continue. Hein. Et ça ne s'est jamais arrêté de toute manière. Alors, je reviens sur ce que je disais. cette vision représentait quelque chose qui devait toujours subsister. Et il faut quand même aller un peu plus loin, parce qu'au verset 34, et ça, il faut tenir compte, « Je regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et ils devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. » Nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et cette montagne a rempli la terre entière. Moi, ce que j'aime bien chez le Seigneur, c'est qu'il prend les hommes à contre-pied, si on peut le dire. À l'inverse, petite pierre qui devient une montagne. C'est la montagne qui devient petite pierre par l'érosion. Mais c'est pas le contraire. Et avec le Seigneur, c'est comme cela. Un petit enfant qui naît dans une crèche, qui va devenir... Moi, je vous dis pas la suite, hein. On va attendre encore un petit peu. Je vais vous faire languir. Hein. Une simple pierre, un caillou, projeté au point vulnérable de la statue, et l'édifice colossal s'effondre et il disparaît. Plus rien du tout. On ne retrouve même plus la trace. On ne peut même plus dire où il a été, où était implantée cette statue. Ça s'effondre. Alors l'explication n'en est pas moins intéressante. Et elle est pleine de sagesse. Parce que, vous savez, j'aurais quand même vous dire, Dieu est sage. L'homme est fou, si vous permettez, hein. Je me mets dedans. Hein. L'homme est fou, mais Dieu est sage. Et je crois que dans une de ses épîtres, je crois que c'est Romains, l'apôtre Paul terminera son écriture de l'épître, il dira « À Dieu seul sage ». Et moi, je me plais à savoir et à me répéter que Dieu est sage. Pleine de sagesse donc pour notre génération, qui vivons à la fin des siècles. Ouais. Moi, je crois que Jésus n'est pas loin. Hein. Levons les yeux. Hein. Vous savez, le figuier, il pousse des feuilles. Hein. Les fruits vont bientôt arriver. Hein. Vous savez de quel figuier je parle. La statue est constituée de quatre parties distinctes, nous l'avons dit, représentant chacune d'elles, quatre grands empires universels. Et figure quatre formes successives de cette puissance mondiale. La Bible nous le dit, mais l'histoire le confirme. Nous l'avons appris à l'école. Eh oui, ça faisait partie du programme. Programme d'histoire. Donc, on ne parle pas de choses à venir. Là, ce que l'on va dire, ce sont des choses qui sont déjà faites, réalisées. Et puis, maintenant, on attend la suite. On attend la suite. Quatre grands empires qui se sont opposés au royaume de Dieu, je le précise. Quatre pouvoirs universels colossaux sur la terre et quatre dominateurs d'Israël. Le premier empire, il est représenté par la tête d'or. Il s'agit de Babylone et de son roi, je rappelle, Nebuchadnezzar. Une ville prestigieuse, une ville fascinante pour le monde entier, pour le monde d'alors. Vous savez ce qu'elle est devenue quand vous lisez les textes de la Bible, hein ? Repère du chacal et puis des bêtes sauvages. Donc, la ville à l'époque la plus riche et la plus peuplée à son apogée, avec un éclat incomparable, une ville fastueuse, la ville la plus fastueuse de l'Orient à l'époque. L'enceinte de cette ville était environ de 95 km de long, enfin, de circonférence, l'enceinte. Il y avait des palais innombrables, des jardins d'une splendeur qu'on n'a jamais pu égaler. Les jardins suspendus de Babylone, les jardins de Sémiramis. Enfin, c'est l'histoire, hein, tout cela. Je le rappelle, tout simplement. Un règne d'absolutisme. Nous, on a eu aussi notre temps avec des rois absolus, mais là, c'était l'absolutisme total. Et de gloire royale. Au verset 37, 38, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » C'est dit, hein? C'est dit. Deuxième empire, représenté par la poitrine et les bras en argent. Après cet empire dont nous avons parlé, celui de Babylone, est venu un empire qui a vaincu Babylone, l'empire des Mèdes et des Perses. C'est aussi de l'histoire. À travers des souverains illustres, Assuérus, j'en ai cité, il y a Cyrus, il y a Darius, un vaste empire qui s'étendait de l'Égypte aux Indes, imaginez-vous, hein, pour l'époque, quelque chose. Des lois et une administration remarquable. On appelait ça des satrapies. Tout était fait d'une manière que, eh bien, l'empire était bien divisé, bien gouverné, bien administré. Et on parle bien de la loi des Mèdes et des Perses. Hein. Il n'y avait pas de grâce particulière. Hein. C'était comme ça, c'était une loi terrible. Cet empire a subsisté environ 2 siècles de domination mondiale. Et nous voyons comment il s'est terminé également. Et puis au bout d'un certain temps, il y a eu l'affaiblissement de ces empereurs jusqu'à la décadence, jusqu'à ce qu'ils soient vaincus par un troisième empire. Troisième empire qui représente l'abdomen, le ventre ou les cuisses. Ils sont des reins, c'est du bronze. C'est solide le bronze. Hein. C'est l'Empire grec, fondé par un homme dont nous entendons parler encore aujourd'hui, Alexandre le Grand. Ouais. Il a conquis le monde de l'époque, le monde, son monde à lui. L'airain est plus dur que l'or et l'argent, et figure la manière brusque et brutale, violente, par laquelle Alexandre le Grand a entrepris ses conquêtes. C'était la guerre éclair avec lui. Il envoyait ses troupes, et il faisait la conquête de tous les pays autour de lui, les royaumes. Et ils tombaient les uns après les autres. Alors, les guerres éclairs d'aujourd'hui, il y avait déjà ceux qui avaient déjà essayé. D'ailleurs, il reste toujours un modèle stratège, un modèle stratégique pour les militaires d'aujourd'hui, Alexandre le Grand. Et nous voyons qu'il est parvenu à soumettre un territoire, un empire d'une grandeur extrême, de l'Orient à l'Occident, toujours de plus en plus grand, de plus en plus grand. Il dominera sur toute la terre, nous dit le texte. Mais c'est une brillante civilisation. Autant il y avait du prestige à Babylone, il y avait une administration remarquable chez les Mèdes et les Perses, là il y avait une brillante civilisation intellectuelle, culturelle et artistique. Nous en sommes, hein ? Nous en sommes quelque part. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, nous sommes aussi issus de cette culture. Et puis voilà que va apparaître... L'Empire grec va s'effondrer et il va être vaincu par un quatrième qui va arriver. Quatrième empire d'une importance décisive. Il est symbolisé par le fer. Très long. Des jambes très longues. Vous allez voir pourquoi. Il est composé d'une première partie de jambes de fer et d'une deuxième partie de pieds. Des pieds qui sont mêlés de fer et mêlés d'argile. Ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, des choses comme ça. Mais c'est comme cela que les choses sont présentées. Au verset 40, « Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise tout et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. » Il s'agit de l'Empire romain. Cette civilisation que nous connaissons bien, dont nous sommes issus, grecs et romaines. Le fer est l'emblème de la puissance de destruction. Et s'il y a eu, eh bien, une organisation militaire, civile, politique, puis artistique et tout ce que vous voudrez, hein, naturellement, hein, le monde latin, qui s'est introduit comme de l'eau qui coule sur la terre et qui s'infiltre partout, avec ce commandement des légions, l'organisation, rien n'arrête, rien n'a pu arrêter. Une puissance de destruction. conquête mondiale et domination. L'histoire de ce royaume aura deux périodes. C'est ce qui explique un petit peu quand on descend vers les pieds. Un temps de force irrésistible, personne ne résiste à l'aigle impérial. Et puis un temps de faiblesse, où la faiblesse sera jointe à la force. Verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé à l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils seront point unis l'un l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. » Nous remarquons au fur et à mesure dans notre étude biblique la diminution de valeur des métaux, de moins en moins précieux, l'or et l'argile. Si on peut dire que l'argile, c'est plutôt de la terre. Nous voyons que cette statue nous parle et nous enseigne de l'absolutisme de Babylone au règne des Césars romains, dirigé par le Sénat, du totalitarisme absolu de Nebuchadnezzar à la démocratie dans les derniers empereurs de environ au IVe siècle de notre ère. En revanche, il y aura accroissement de la dureté des métaux, marquant la force et l'endurance. L'empire babylonien durera moins d'un siècle. L'empire médo-perse durera que 200 ans. Enfin, c'est déjà pas mal quand on est sous la domination. L'empire grec durera, lui, 368 ans. Et l'empire romain, 500 ans. Voyez ? Le verset 43, nous l'avons lu et je le relis. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne pourront pas être unis. Et là, c'est intéressant. Les pieds d'argile. L'Empire romain a pris fin aux environs du IVe siècle de notre ère, de l'ère chrétienne, et il a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui le monde occidental. Nous sommes des occidentaux, hein ? Nous vivons dans un monde d'inspiration, de culture, de racines occidentales. Alors quand je parle, c'est l'Europe, mais je pense aussi à tout l'Amérique Nord et Sud. Eh oui. Culture latine, notre langue d'ailleurs, qui est très intéressante. Moi j'aime beaucoup le français. Rome est restée la capitale religieuse du monde dit chrétien, avec à sa tête un prince internation. Je n'allais pas dire international, mais je dis internation, depuis 20 siècles. Le pape auquel tous les dignitaires politiques viennent faire leur allégeance. Et tout cela repose sur cette construction qui a vu le jour aux environs de l'an 800 et peut-être quelques... Et ça s'est terminé en 1860 et quelques, avec la fin dans l'Empire... Enfin, ce n'était pas tout à fait la fin de l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'Empire romain d'Occident, le Saint-Empire romain d'Occident. Ça, c'est de l'histoire, hein. Mais vous savez que l'histoire, elle nous apprend des choses extraordinaires et formidables. On ne peut pas, quand on est chrétien, faire fi de l'histoire. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, et ça doit nous donner une projection sur ce que nous allons. Parce que derrière tout cela, le Seigneur est au-dessus. Vous n'êtes pas inquiet de ce qui va arriver. Parce que je vais vous faire des révélations ce matin. Eh oui. Un rêve ambitieux est de toujours de l'homme de dominer sur le monde. Souvenez, Nebuchadnezzar, les rois des Mèdes et des Perses, Alexandre le Grand, et puis les Césars à Rome. C'est-à-dire l'ambition des hommes et de ces grands de ce monde, de ces grands de pouvoir, ça a été de faire l'unification du monde, entre autres l'Europe en particulier, et déjà tenté et retenté et sans succès depuis Charlemagne en quelque sorte. Alors les Charlemagne, les Charles Quint, les Napoléon, les Hitler et puis notre période actuelle aujourd'hui. Ah, ça se fait peut-être plus de la même manière et heureusement d'ailleurs. Mais jusqu'à Hitler, ça se faisait avec les canons et puis l'épée. Mais on n'est pas encore garanti. Parce que finalement, pour faire la paix, on est en train de se surarmer et se préparer, hein, certainement. Alors, le but, c'est dominer. Ils avaient tous le même slogan, dominer et gérer le monde. Alors que ce soit le monde, puisqu'on parle de mondialisation aujourd'hui, c'est quelque chose, hein. La guerre, elle est économique, elle est financière, elle est tous les domaines, hein. Elle est sur la terre et elle est dans le ciel aussi, hein. Ça c'est clair. Alors, l'Europe, notre monde occidental, je préfère dire cela comme ça, est-ce une réalité? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable par l'homme? Ou est-ce que c'est une utopie? Vous avez entendu les dernières nouvelles hier soir, hein. On s'accorde pour s'accorder, on va parler. Bon. Et pendant ce temps-là, ça brûle. Hein ? Le monde est en flammes. Cette société, cette civilisation occidentale est une mosaïque de nations, une puissance politique, économique, financière, militaire de première importance. Parce que plus ça va, plus il y a de monde, hein, qui va leur entrer dans tout cela. Hein. Et c'est vrai, c'est interpellant, naturellement. Mais vous avez remarqué avec moi, et je le lis, ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Qu'est-ce qu'ils avaient fait à Babel? Parce que c'est la même chose, hein. À Babel, ils avaient dit, unissons-nous. Et puis, faisons-nous une tour qui monte jusqu'au ciel. Et faisons-nous un nom sur la terre. Ils sont tous pareils. Vous voulez laisser un nom derrière vous? Bon, pas vraiment. Hein. Notre nom, il sera marqué simplement sur le registre d'état civil, hein, c'est tout. Hein. Moi, je n'ai pas l'intention de me faire construire une statue. Enfin, si j'en fais une, je vous inviterai à l'inauguration. On coupera le ruban ensemble. Hein. Eh ouais, mais ça, nous, on parle comme ça, mais il y en a d'autres, c'est pas possible. Pas possible, c'est une obsession. Je veux être le plus grand. Je suis plus grand. Ah oui, bon, évidemment. Avec une telle idée, c'est qu'on l'est déjà. Ça ne s'allie pas. C'est le mariage de la force et de la faiblesse. Le mélange, regardez les dernières décennies que nous avons, le XXe siècle, c'est le mélange du totalitarisme et de la démocratie. Un petit peu, et ceci et cela. Mais moi je dis que c'est vrai, tout cela, il y a, pendant le totalitarisme, dans la démocratie, il y a des bonnes choses, naturellement. Mais c'est une extrême faiblesse. Une extrême faiblesse sans Dieu. C'est pas possible. Ça, c'est l'illusion du bonheur. Hein. Du bonheur humain, vous savez. Rêvé par tous les philosophes et les utopistes. Réalisation de l'âge d'or. Mais l'âge d'or, tellement aspiré, parce qu'on ne parle que ça tous les jours, l'âge d'or. Bientôt, il n'y aura plus de maladie, on vaincra la mort, et puis les hommes vivront dans un monde idéal, hein, d'écologie et de tout ce que vous voudrez. Il y aura le partage de la richesse, tout le monde aura la fortune. La santé et tout le reste. L'âge d'or, mais l'âge d'or sans Dieu. Le temps des royaumes terrestres prendra fin et laissera la place au royaume éternel de notre Dieu. C'est notre espérance en tant que chrétien. Comment faire passer ce message à tous ces grands de ce monde qui semblent complètement sourds et aveugles à ce qui se passe autour d'eux? Là, je finirai en prison, hein, si je continue. C'est la saison des oranges, alors ça ne vous coûtera pas cher. Eh oui, et je le répète parce que c'est une pensée qui est forte, qui est belle, qui est biblique et qui vient du Seigneur. Tous ces royaumes terrestres laisseront la place au royaume éternel de Jésus-Christ. Le verset 44, on continue rapidement. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Il brisera et anéantira et il demeurera éternellement. Mais vous avez remarqué ce qu'on a lu au verset 34. Il nous est parlé au verset 34 tout simplement, dans que je retrouve. « Tu regardais lorsqu'une petite pierre se détacha sans le secours d'aucune main et frappa les pieds. » Et puis au verset 45, il est dit « C'est ce qu'indique la petite pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. La petite pierre détachée. Vous savez, on a été à Bethléem et on a vu un petit enfant qui ressemblait à tous les autres petits enfants. Il n'avait rien de différent des autres. Et pourtant, des hommes de très loin sont venus pour l'adorer, lui apporter ce que nous avons déjà évoqué ensemble récemment. C'est l'emblème du Messie, du Rédempteur, du Sauveur descendant du ciel, qui revient, la petite pierre qui vient, qui est jetée, qui revient pour juger l'homme obstiné et incrédule, juger une humanité présomptueuse et assoiffée de gloire terrestre. Cette petite pierre se détacha sans le secours d'aucune main, j'insiste. Jésus, l'homme de souffrance dont il nous est parlé, aussi prophétiquement dans Ésaïe 53, versets 1 à 3, ni éclat, ni beauté, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Alors Jésus a fait sa première apparition au cœur du quatrième empire. Quatrième empire universel. Du temps que, et ça nous est dit dans l'évangile de Luc, puisque c'est l'évangile de l'histoire, du temps que Claude était, enfin je ne sais plus exactement quel empereur à l'époque, Quirinus et etc. était la gouverneur de ceci et cela. Tout est bien cadré, hein. Et c'est pas le fait du hasard que ce soit cadré historiquement dans les écrits des évangélistes. Alors, il est venu proclamer la repentance et le salut, annoncer aux pauvres le royaume de Dieu, libérer les captifs, donner la liberté et l'espérance, proclamer une année de grâce à tous ceux qui voulaient l'entendre. Voilà, c'est ça. Et cet empire-là, si je l'appelle le cinquième, mais il n'y a pas de... Il est le début, il est la fin, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le premier, il est le dernier. Donc on ne va pas lui donner une classification. C'est cet empire-là dont nous parlons. Son message à ce roi qui n'avait que deux couronnes, des épines et un trône, une croix, ce message-là était un message révolutionnaire, est un message révolutionnaire qui a fait vaciller l'Empire romain. Et regardez Pilate, hein. C'est plus tellement où il en est rendu. Et même jusque auprès du Sénat et auprès des empereurs de Rome, les choses vont être complètement bouleversées jusqu'à Constantin, l'empereur Constantin, qui lui va dire, on change les donnes, hein, maintenant on devient chrétien. Parce que ça commence à prendre des proportions qui sont... on ne peut plus rester comme ça, c'est pas possible. Hélas, les hommes ont su habilement, et ça c'est vraiment notre tristesse, au fond du cœur d'un chrétien né de nouveau. Je dis bien que après, les hommes ont su habilement détourner la vérité du Christ et la réduire en religion humaine et sans vie. Et ça, c'est terrible. Comment, Seigneur, tu as pu laisser les hommes souiller l'Évangile et ton Christ? Et pourtant, nous sommes dedans. Eh oui, il aurait pu dire, ça reste comme ça et ça ne bouge pas. Ne touchez pas. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que vous savez, pour être un chrétien, c'est pas de l'être parce que tout le monde y est. C'est de l'être par une expérience personnelle qui passe par la repentance, par la nouvelle naissance et par la conversion à Jésus-Christ et un changement de vie. Autrement, ce n'est plus du christianisme, c'est tout ce que vous voulez. Et on a donné des ismes au nom des différentes familles issues de la chrétienté. Alors faisons attention que nous, en tant que pentecôtistes, nous restions véritablement des chrétiens avant. Hein, avant tout. Les ismes se mènent nulle part, hein, vous savez, en géographie. Jésus règne déjà dans les cœurs des hommes qui ont bien voulu le recevoir. Et viendra un jour où il règnera partout et toujours. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus a annoncé en primeur, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais il n'est pas seulement proche, il est là. Il est là le royaume de Dieu. Tout ce qu'a fait la honte des empires humains sera anéanti. Les violences, la guerre, la cruauté, la domination, la tyrannie, l'extermination, l'esclavage, l'exploitation de l'homme par l'homme, nous pouvons nous dire, mes frères et sœurs, qu'un jour tout ça prendra fin, ça sera terminé, et ça ne sera plus le règne de l'homme, ça sera le règne de Jésus, ça sera le règne de Dieu. Ça sera fini. C'est notre espérance. Et ça, c'est Noël. Je termine en conclusion. La pierre représente le Christ et son message accepté par les uns et refusé par les autres. Parce qu'on n'est pas les plus nombreux. Hein. Il faut aimer la vérité, aimer la justice. Il faut aimer l'humilité. Parce que l'orgueil, ça vous met dans l'autre camp, ça vous laisse dans l'autre camp et vous ne servez pas Dieu à ce moment-là. Vous servez l'autre. L'histoire humaine a commencé par Dieu et se terminera immanquablement par Dieu, et au milieu il y a l'homme. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, il est dit ceci, « Jésus est, écoutez bien, la pierre rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. » Moi j'aime bien ces textes. On y passerait des jours et des jours à commenter, hein, à entendre. C'est formidable la parole de Dieu. On n'est pas sans vision, on n'est pas sans perspective, on a une espérance extraordinaire, elle est glorieuse notre espérance. Alors pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous gênions en tant que chrétiens? Mais il y a des choses meilleures qui nous attendent. Vous êtes d'accord?
Oui.
Ouais. Seigneur, donne-nous véritablement de nous réjouir par le Saint-Esprit de ce qui nous est préparé. Cette petite pierre, elle était rejetée. Et on voit combien le Christ est rejeté, mais elle est devenue le principal de l'angle. Sans Jésus, impossible de bâtir un monde de paix, de vraie fraternité et de bonheur réel. Et pas un ersasme de christianisme, pas une contrefaçon de christianisme. Parce que malheureusement, il existe et il est imposant. Elle est imposante, cette contrefaçon de christianisme. Dans Romains chapitre 9 et verset 33, il nous est dit que la grâce... Et pour celui, je dis bien la grâce, et pour celui, le salut et la grâce est pour celui qui croit. Dieu dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. C'est la statue brisée dont nous avons parlé. L'ambition des hommes. Un rocher de scandale, une pierre, un rocher. Et celui qui croit en lui, en parlant de Jésus, ne sera point confus ni déçu. Seul pour sauver d'un monde désespéré et perdu, il n'y a que Jésus. Alors les hommes qui se concertent, ils ont certainement beaucoup de travail à faire, qui vont d'une conférence, d'un sommet, d'un congrès, de ceci et cela, je crois qu'ils ont oublié le principal, le premier invité, le président, il a été oublié. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs a été oublié, il est oublié partout. Il est absent, on ne veut même pas de lui. Vous savez que même dans notre constitution européenne, on a refusé de reconnaître les origines chrétiennes de l'Europe. On ne veut même pas l'inscrire. Ah là 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 là, c'est quelque chose. Remarquez, il y en a d'autres qui en auraient profité aussi. Alors quelquefois, il vaut mieux qu'il soit. Hein. Nous, elle est inscrite au fond de notre cœur. La charte de notre roi. La règle et les lois de grâce et d'amour de notre Dieu, c'est dans le cœur, c'est pas sur du papier. Parce que les papiers, vous savez, ça brûle. Jésus est venu pour régner sur toute la terre. Alors, écoutez bien, et je trouve que c'est très beau. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Merci Seigneur de savoir qu'on n'est pas abandonné. Merci Seigneur que la domination, eh bien, repose sur toi. Déjà, le Seigneur est là, il règne. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix dans un monde où on entend les bruits de canons partout. Prince de la paix, Père éternel. Dans Apocalypse chapitre 11, le royaume du monde sera remis à notre Dieu et à son Christ, nous dit l'Apocalypse. C'est le dernier livre, ça, l'Apocalypse. Hein. Et il règnera au siècle des siècles. Une leçon, simplement. La statue colossale dont nous avons parlé, qui s'écroule, évoque la fragilité de la vie, son éphémérité et sa vanité. Et le monde, depuis des siècles et des siècles, continue à vivre dans cette inconscience, dans cette indifférence. Et pourtant, c'est là. Alors, sur quelle base, nous, en tant que chrétiens, et puis tous ceux qui pourraient être là au milieu de nous et qui auraient besoin de l'entendre, sur quelle base repose notre existence ? Je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui doivent se réveiller. Le Seigneur n'est pas loin. Il est proche à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend et m'ouvre, ouais, beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, moi, quelquefois, ce qui m'interpelle, c'est que les jours d'avant Noël, les églises étaient pleines. Ouais. C'est pas, si c'est pour la tradition, bon. Mais même chez les enfants de Dieu. Même chez les enfants de Dieu. Alors, sur quelle base fondons-nous notre existence ? Est-ce que, finalement, avec ce qui va arriver, est-ce que notre existence, notre vie, résistera-t-elle aux heurts et aux chocs qui vont arriver, hein ? Parce qu'il va y en avoir inexorablement. Est-ce que nous sommes fondés sur de l'argile et du fer mêlé, ou alors est-ce que véritablement nous sommes en or, en argent et en pierre précieuse ? En 100 ans, vous avez décodé ce que je veux dire, naturellement. Mais Jésus nous le dit aussi d'une autre manière, parce qu'on peut le décliner sous toutes les formes dans la Bible. Vous n'ouvrez pas une page où vous trouvez la même chose. Vous connaissez le sage qui a bâti sa maison sur le roc, et ou le fou qui a bâti sa maison sur le sable. Et j'en reviens à cette dernière chose que nous avons lue tout à l'heure, dans Daniel 7, je dis, on lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera jamais détruit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Relevons notre tête, frères et sœurs, et remplissons nos cœurs de cette espérance. Jésus revient bientôt pour dominer le monde entier. Que Dieu nous bénisse. On va s'incliner quelques instants et nous allons bénir Dieu maintenant, simplement.